Barbara en discours défendant la libre concurrence, la nécessité de lever toutes les entraves au commerce. Elles prétendent que c'est la voie qui permettra aux pays sous-développés de s'en sortir, mais ces discours masquent l'offensive des puissances impérialistes. Elles enchaînent les pays pauvres dans le sous-développement en multipliant les petites mesures qui s'ajoutent aux mécanismes économiques du capitalisme. L'échange entre pays pauvres et pays riches est fondamentalement inégal. Les pays pauvres échangent le plus souvent des matières premières contre des produits manufacturés. Pour le cacao, par exemple, alors que 90% de la production sort des pays pauvres, la transformation en chocolat se fait à 96% hors des pays producteurs. Mais comme si cela ne suffisait pas, les États des pays riches limitent par leur politique douanière l'entrée des produits agricoles transformés. Aux États-Unis, la taxe sur l'importation de la tomate chilienne est de 2,2%. Mais si elle est importée en boîte ou séchée, la taxe s'élève à 8,7% pour atteindre 11,6% pour la sauce tomate. Ces pays riches qui prônent la libre concurrence comme garantie du bon fonctionnement du marché sont les champions des subventions sur les produits agricoles. Ces subventions sont de véritables armes de guerre contre les paysans des pays pauvres. À l'échelle des pays de l'OCDE, c'est-à-dire de tous les pays industrialisés, l'ensemble des aides à l'agriculture sous une forme ou une autre a représenté 350 milliards de dollars en 2006. Grâce à ces subventions, l'Union européenne pouvait écouler en 2000 ses volailles à 1100 francs CFA sur les marchés de Dakar, alors que le poulet local coûtait 1535 francs CFA. La prétendue libre concurrence n'existe que pour les discours. La puissance des pays riches est telle qu'ils réussissent à imposer leurs conditions aux pays pauvres sans que ceux-ci puissent se défendre. C'est la loi du plus fort qui s'applique. À la fin des années 1980, la Côte d'Ivoire, qui fournit plus de 30% du marché du cacao mondial, a tenté de résister à la pression sur les prix du cacao venant des entreprises qui le commercialisent. Les importateurs se sont tournés vers le cacao indonésien, dont la production avait progressé parallèlement. En 1980, quand le gouvernement indien a voulu imposer un prix d'exportation minimum pour le thé, Unilever, qui détient 20% du marché mondial du thé, et quelques autres, ont boycotté la production indienne pour obliger le gouvernement indien à baisser ses prix. Les accords commerciaux adoptés entre les pays pauvres et les pays riches sont des rouleaux compresseurs qui écrasent les pays pauvres. La constitution de l'ALENA, c'est-à-dire d'un accord de libre-échange nord-américain qui lie le Mexique, les États-Unis et le Canada, le démontre. Cet accord associe deux pays développés à un pays pauvre. Il convenait d'abaisser toutes les barrières douanières entre les trois pays. Les industriels américains qui voulaient profiter de la main-d'œuvre à bas coût du Mexique multiplièrent par 4 leur investissement, en installant en particulier des usines de montage. Le Mexique prit la 13e place dans le classement à l'échelle mondiale des pays exportateurs. Mais ces exportations étaient bien sûr presque exclusivement en direction des États-Unis et provenaient d'usines à capitaux américains. Dans le même temps, le Mexique ouvrit ses frontières aux produits agricoles, en particulier le maïs américain. En quelques années, les agriculteurs américains réussirent à imposer sur le marché mexicain leur maïs, du fait de la différence de productivité, mais aussi des subventions reçues par les agriculteurs américains. Rien qu'en 2000, le seul secteur du maïs américain a reçu 10 milliards de dollars de subventions, soit 10 fois plus que le budget de l'agriculture du Mexique. En quelques années, 2,5 millions de paysans mexicains, voire 3 millions, ont été évincés sans pour autant pouvoir trouver du travail dans les villes mexicaines. En fait, Dans le cadre de l'économie de marché, les pays pauvres ne peuvent pas sortir du sous-développement, qu'ils ouvrent ou non leurs frontières. Chaque mesure, chaque règle, prise au nom de la libre concurrence ou pas, devient un nouveau moyen de détruire l'économie des pays sous-développés ou de l'inféoder aux pays impérialistes. Dans les pays prétendument émergents, l'écart entre l'opulence créée par le capitalisme et la misère toujours aussi présente atteint un niveau inégalé. Au Brésil, décrit actuellement comme le futur grenier à blé du monde, 14 millions de personnes souffrent de la faim sur les 165 millions d'habitants, en majorité des paysans. L'inégalité dans la répartition des terres est telle que 1% des propriétaires terriens détiennent la moitié des terres cultivables. À côté de ces grands propriétaires, il y a 4 millions de familles paysannes sans terre. Le gouvernement n'a procédé à aucune redistribution et comme les grands domaines étaient parfaitement adaptés à l'utilisation de moyens mécaniques et à la production de céréales à haut rendement, le pays a réalisé ce qu'on a appelé la révolution verte. Norman Borloo, son initiateur, a reçu d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 1970. Celui-ci avait, avec son équipe, mis au point des variétés de blé, de riz, de rendement 4 fois supérieur aux variétés de l'époque des années 1960. Les discours dithyrambiques des laudateurs de l'époque promettaient l'autosuffisance aux pays pauvres, promettant l'autosuffisance aux pays pauvres, n'était en réalité qu'un habillage idéologique de la nécessité d'investir dans l'agriculture et l'élevage comme les pays riches l'avaient fait. Cela supposait une irrigation adéquate, des produits phytosanitaires adaptés. Les grandes sociétés industrielles, chimiques, pétrolières, pharmaceutiques et bien sûr agroalimentaires ont trouvé le moyen, en investissement dans l'agriculture, de se tailler des marchés dans les pays pauvres avec la bénédiction des pouvoirs publics. À qui pouvaient servir ces techniques, sinon aux propriétaires de grandes superficies, disposant de moyens financiers, pouvant avoir accès aux prêts bancaires dans des conditions acceptables? Alors le Brésil est devenu un des pays exportateurs de céréales. Une grande partie des 100 millions de tonnes de céréales qui y sont produites sont exportées. Le développement des grandes propriétés pour la culture d'exportation s'est poursuivi au détriment des cultures vivrières et en particulier par la confiscation des terres des paysans pauvres. Car non seulement ceux-ci ont subi la concurrence des grandes exploitations, la faiblesse des prix agricoles, mais aussi les expropriations pures et simples. Une fois expropriés ou ruinés, ils rejoignent la cohorte des pauvres, des bidonvilles, où aucune industrie ne les embauche. La croissance, l'augmentation en valeur et en quantité de la production agricole n'a pas permis de faire disparaître la faim. Au contraire, elle a creusé l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, comme le montre l'exemple du Brésil. Elle est aussi la preuve que la révolution verte ne peut pas remplacer la révolution sociale, qui se fixerait pour objectif, entre bien d'autres, l'expropriation des grands propriétaires terriens et la mise à disposition des paysans pauvres des terres fertiles où se cultivent notamment des céréales destinées à la fabrication d'agroalimentaires, d'agrocarburants pour le marché mondial. Or aujourd'hui, un nouveau remède miracle nous est proposé avec les OGM qui seraient capables, d'après leurs partisans, d'augmenter la production au point d'empêcher toute famine. Les promoteurs du développement des OGM défendent le fait que ces variétés génétiquement transformées pourraient permettre d'éliminer les carences en vitamines, d'empêcher les insectes de détruire les récoltes, de faire pousser du riz avec moins d'eau, le tout en mettant moins d'engrais, etc. Sans entrer dans le débat sur les risques réels ou supposés de telles cultures, leur discours rappelle ceux qui ont accompagné la révolution verte des années 60 dont nous venons de parler. Elle a effectivement permis une forte progression de la rentabilité des terres agricoles, traitées comme des entreprises capitalistes, mais elle n'a pas résolu le problème de la faim et a accru les inégalités entre les producteurs. le développement de cultures OGM aura probablement les mêmes effets, à savoir que la dépendance des paysans augmentera encore face au trust des semenciers, en l'occurrence Monsanto, Aventis et BASF, pour n'en citer que les trois principaux, et que seule une minorité de paysans disposant des terres et des moyens financiers nécessaires pourra avoir accès à ces cultures. Ces sociétés cherchent surtout à étendre leur marché et à rendre l'agriculture dépendante de leurs semences. Des agronomes partent du constat que les paysans pauvres ont peu de ressources, des petites surfaces, et cherchent des moyens techniques à leur portée. Ces agronomes veulent, pour reprendre les mots de Michel Griffon, un des leurs, inventer une agriculture écologiquement intensive qui tire un meilleur rendement sans dégrader les écosystèmes. Il a qualifié l'ensemble des solutions qu'il propose de révolution doublement verte. Les études de ces chercheurs, aux côtés des paysans, sur la base de terrains friables, peu fertiles, en proie à la sécheresse, ont l'intérêt de montrer que des possibilités existent pour augmenter les rendements de la production vivrière en respectant la nature, et donc de permettre à des millions de paysans de se nourrir ainsi que leurs familles. Mais ces solutions font abstraction et de la fluctuation des prix qui peut réduire à néant ces efforts et des offensives des grandes sociétés appuyées par leurs États pour balayer ces tentatives. Abstraction est faite aussi de la répartition des terres, alors qu'une partie de la misère des paysans est due au fait qu'ils ne possèdent qu'un hectare et parfois moins. Comme il reste dans le cadre du système capitaliste, les solutions qu'il propose se heurtent aux lois économiques de la société de marché. La malnutrition d'aujourd'hui et la nécessaire augmentation de la production agricole dans les années à venir soulèvent bien des débats. Une grande partie des protagonistes ont des arguments particulièrement réactionnaires. Ils reprennent les raisonnements de Malthus, pasteur anglican, économiste à 16 heures, auteur de cette théorie qui consiste à rendre responsables les pauvres de leur misère. Au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle, alors que dans les faubourgs des villes anglaises, une misère effroyable se répandait, Malthus expliquait que, je le cite, « la population double tous les 25 ans selon une progression géométrique, tandis que la nourriture disponible, en partant de l'état actuel de la terre habitée, augmente selon une progression arithmétique ». Sa théorie érigeait en loi intangible l'impossibilité de produire suffisamment pour faire face à l'augmentation de la population. On comprend bien pourquoi les milieux bourgeois de l'époque l'ont reprise. Elle dégageait la bourgeoisie de toute responsabilité face à l'extrême misère qui frappait les quartiers pauvres des villes anglaises. Elle la disculpait du licenciement des hommes qu'elle privait de tout revenu et leur remplacement par les enfants dès l'âge de 5 ans. Comme cette théorie, le malthusianisme, dédouane le système capitaliste de toute responsabilité, elle continue de trouver des partisans et revient en force à chaque fois que la misère s'étend. Cependant, même dans le cadre de la société capitaliste, malgré les limites de l'organisation sociale impose au progrès, les faits l'ont complètement infirmé. Entre 1950 et 2000, alors que la population mondiale a été multipliée par 2,4, la production agricole l'a été par 2,6, selon les chiffres de la FAO. Le rendement agricole a donc été multiplié par 2, bien que des régions ont gardé une rentabilité des cultures très faible, et bien que des terres aient été mises en friche pour soutenir les cours des produits agricoles. Le monde bourgeois et celui des intellectuels imprégnés de son idéologie continuent d'accuser les pays pauvres d'être responsables de leur propre malheur. Ce qui est d'autant plus stupide qu'en Afrique, les pays qui ont la plus forte natalité sont aussi des pays qui ont une faible densité de population. Alors, il y en a pour des années avant qu'ils ne rattrapent la densité de la population de la Hollande. Pourtant, personne ne déclare que la Hollande souffre de surpopulation. Une autre forme de malthusianisme est exprimé par le nouveau rapporteur de l'ONU sur les questions alimentaires, qui déclarait dans son interview au journal Le Monde, je le cite, hein, « Avec l'augmentation de la demande alimentaire, l'offre ne suit plus. Ne nous voilons pas la face, il faut consommer moins d'énergie, utiliser moins de voitures, ne pas se faire des illusions sur la capacité des nouvelles techniques à nous permettre de poursuivre notre mode de vie occidental. » Là encore, ce langage n'a rien de nouveau et a été à chaque époque démenti par les faits. De plus, cette idéologie sous-entend que ce sont aux plus pauvres de payer la situation de crise, car qui devra consommer moins si ce n'est ceux qui n'en ont pas les moyens ? La controverse contre les arguments malthusiens a eu lieu au sein même du Parti social-démocrate entre deux théoriciens du mouvement socialiste, Bebel et Kosky, à la fin du XIXe siècle. Kosky finissait par se ranger derrière les arguments de Malthus à partir de l'idée que la terre ne pourrait que s'appauvrir à force d'être travaillée par les hommes. Il écrivait « La loi du peuplement est la condition préliminaire inéluctable de toute discussion fructueuse de la question sociale. » C'est-à-dire qu'il faudrait commencer, même dans une société socialiste, par limiter l'augmentation de la population pour échapper à la loi d'appauvrissement des sols qu'il tirait de Malthus. Alors, vu avec nos yeux d'aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être plus convaincus de l'étroitesse des raisonnements malthusiens. Les prétendues limites de la nature ont été plus d'une fois repoussées, et quand elles perdurent, elles sont liées au mode de fonctionnement de la société. La course au profit que mène la grande bourgeoisie, la répartition des richesses qu'elle impose, voilà les obstacles à la résolution de ces problèmes. Bebel était porteur de la conviction, qui est aussi la nôtre, que la société trouvera d'autres formes d'organisation sociale et qu'elle sera alors capable de bien des progrès, pouvant répondre à l'accroissement de la population comme aux limites de la production. Il répondait à Kosky en écrivant « Partout, c'est aux institutions sociales et aux modes de production et de répartition qui en dépendent qu'il y a lieu de faire remonter les causes de la détresse et de la misère et non pas au nombre des êtres humains. » C'est le capitalisme qui est incapable de nourrir la planète malgré les progrès techniques prodigieux dont il est à l'origine. Il faudrait que les hommes se débarrassent des entraves liées au système capitaliste pour jouir pleinement de ses progrès et permettre à l'humanité de maîtriser sa propre évolution, même dans un domaine comme celui de la démographie. Karl Marx écrivait dans Le Capital: chaque période économique du développement de l'humanité a aussi sa loi de peuplement particulière. Jusqu'à présent, à toutes les époques, en ce qui concerne la production comme la répartition des moyens d'existence et l'accroissement de la population, l'humanité a agi sans connaître leurs lois et par suite inconsciemment. Dans la société nouvelle, elle agira méthodiquement et en pleine connaissance de toutes ces lois. Le socialisme est la science appliquée en pleine conscience et en toute connaissance de cause à toutes les branches de l'action humaine. L'appropriation des moyens de production par la bourgeoisie et leur détournement dans la course au profit provoquent un gâchis des ressources, un gâchis des potentialités de l'humanité, dramatique dans le domaine alimentaire. Même sans faire référence aux possibilités futures d'une société débarrassée du capitalisme, l'irrationalité de ce système est un scandale par le gaspillage qu'elle engendre. Dans la société capitaliste, on débourse des centaines de milliards pour tenter de sauver des banques et des spéculateurs. Combien d'heures de travail cela représente-t-il ? De combien d'investissements utiles la société est-elle privée ? En période de crise, les capitalistes détruisent les récoltes, dénaturent les fruits pour faire remonter leurs cours. Il n'est pas question de les distribuer à ceux qui en ont besoin. En 1929, lors de la Grande Crise, il y a eu 8 millions de têtes de bétail abattues aux États-Unis, 20 millions de sacs de café brûlés au Brésil, etc. Alors depuis les années 80, la bourgeoisie tente de contrer la baisse des cours par la même politique de destruction menée de façon préventive. Peu lui importe que tout le monde ait suffisamment. Les États européens ont décidé en 1988 la mise en place de quotas laitiers, la mise en jachère des terres. Il y avait trop de lait, trop de beurre, trop de blé, de plus en plus utilisé pour l'alimentation du bétail, pour faire face à la surproduction. Les paysans reçurent des subventions pour ne pas produire. On les incita à changer de culture, à abandonner leur élevage de vaches laitières. L'agriculture était parvenue à des records de productivité pour ensuite se demander comment se débarrasser de tout ce qui ne trouvait pas d'acheteurs. Bien des paysans ont eu du mal à admettre toute l'absurdité de ce système. Quant aux consommateurs qui peinent à s'acheter fruits, légumes et produits laitiers, les stocks démesurés de la CE ont pu leur apparaître comme une véritable provocation. Depuis, il a été annoncé une pénurie de lait, une baisse des stocks de céréales. Alors, dans le cadre de l'Europe, l'arrêt complet des jachères libérerait 4 à 5 millions d'hectares. C'est de cette façon que les gouvernements régulent le système capitaliste et tentent d'atténuer ces lois pour leurs propres capitalistes. Alors seule une organisation sociale future qui ne serait pas basée sur le marché pourrait se débarrasser d'un tel gaspillage. L'objectif des multinationales est de vendre toujours plus à ceux qui en ont les moyens, quitte à susciter et créer des besoins. Non seulement les pays du tiers-monde sont mis à contribution en permanence pour la satisfaction des besoins des pays riches par la monoculture, mais ils produisent pour des besoins artificiels, comme la production des fruits et légumes en contre-saison. Un autre gaspillage est lié à la volonté de vendre des produits à forte valeur ajoutée, comme le font Nestlé ou Danone. Il leur faut faire une marge plus importante à chaque fois sur chaque produit. Une de leurs dernières solutions a été de diminuer la quantité de produits dans chaque paquet. Mais cela ne les empêche pas de multiplier les marchandises plus chères, qui sont loin d'être plus nutritives, mais qui le rendent plus attirante pour le consommateur avec la publicité. Alors cela frise l'absurde, comme lorsque ces grandes sociétés cherchent à vendre un nouveau produit à base de lait qui pourra être bu même par ceux qui ne le digèrent pas. Enfin, nous pourrons tous devenir des buveurs de lait. Et c'est probablement mieux qu'une société de buveurs d'alcool, mais ce n'est sûrement pas par philanthropie. Alors la notion de profit limite les progrès potentiels. Les recherches concernant les semences sont faites essentiellement sur les produits d'exportation ou les produits consommés par les pays riches. Le manioc ou d'autres cultures vivrières des pays pauvres n'intéressent pas ou très peu les centres de recherche agronomique des entreprises privées, puisque la grande masse des paysans pauvres ne constitue pas un marché solvable attirant. Le capitalisme gâche les immenses possibilités scientifiques et techniques de l'humanité. Celles-ci devraient servir à faire progresser la société alors qu'elles ne font qu'aggraver les inégalités. Quand une partie de la population est écartée de quasiment toute consommation, il est indécent de mettre en avant la nécessité de diminuer la production et la consommation. Pour sortir de la contradiction apparente entre les ressources et les besoins, il faudrait que la bourgeoisie perde la direction qu'elle a sur la société. Les représentants de la FAO ont toutes les raisons de s'attendre à une aggravation de la crise alimentaire dans l'année à venir. Ils estiment qu'il leur faudrait 30 milliards de dollars pour nourrir tous les affamés pendant l'année à venir. Cette somme, c'est un tiers de ce que les États-Unis viennent de débourser pour sauver une compagnie d'assurance. C'est une goutte d'eau par rapport aux centaines de milliards que l'ensemble des États est en train d'injecter dans les différentes institutions financières en difficulté, en prétendant sauver la planète. Alors, décréter une journée mondiale pour l'alimentation est d'une hypocrisie révoltante. Non seulement l'aide alimentaire est insuffisante depuis des années, mais les grandes puissances, dont les États-Unis, qui en fournissent la moitié, s'en servent comme d'une variable d'ajustement de leur politique agricole. Avec la hausse des prix, ce sont 75 millions de personnes supplémentaires qui sont affamées. La rapidité avec laquelle les grandes puissances se précipitent au chevet des banques et leur inertie devant l'urgence à nourrir des millions d'affamés provoquée en partie par les désordres que les financiers de la planète ont engendrés, résume le fonctionnement de la société capitaliste et le condamne. Avec l'aggravation de la crise économique, la situation alimentaire des pays pauvres va se dégrader encore plus. Mais cette crise peut entraîner un bouleversement profond de la situation alimentaire de l'ensemble de la planète, jusqu'à y compris les pays les plus riches, où les crises alimentaires semblent un lointain souvenir. Lors de la Grande Dépression qui a suivi la crise de 1929 aux États-Unis, des millions d'Américains dépendaient de la soupe populaire pour leur survie. Trotsky écrivait le texte intitulé « Le marxisme et notre époque » en 1939, 10 ans après l'effondrement de 1929. Alors, je le cite. « L'histoire rapportera que le gouvernement du pays capitaliste le plus puissant a donné des primes aux fermiers pour qu'ils arrachent ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire pour diminuer artificiellement le revenu national déjà en baisse. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En dépit de grandioses possibilités de production, fruits de l'expérience et de la science, l'économie agricole ne sort pas d'une crise de putréfaction, tandis que le nombre d'affamés qui constituent la majeure partie de l'humanité continue à croître plus vite que la population de notre planète. » Et Trotsky veut s'en prendre aux conservateurs, qui condamnent la lutte pour le socialisme comme de l'utopisme destructeur, alors qu'ils considèrent comme une politique sensée, humanitaire, la défense d'un ordre social qui est tombé jusqu'à un dernier degré de folie destructrice. Laisser le destin de l'humanité entre les mains des spéculateurs, des bourgeois avides de profit, c'est effectivement le laisser sombrer dans une folie destructrice, tout autant qu'après 1929. Alors oui, il est d'une nécessité vitale que la société capitaliste laisse la place à une organisation sociale basée sur la propriété collective des moyens de production et qui se fixe pour objectif la satisfaction des besoins de tous. C'est la seule alternative à la barbarie dans laquelle le capitalisme enfonce le monde. Alors comment une société débarrassée de la dictature de la bourgeoisie sur l'économie pourrait-elle satisfaire les besoins élémentaires de toute la population, parmi lesquels, outre le logement, les soins et l'éducation, il y a en priorité la nourriture. Dans tous les pays pauvres où la grande propriété foncière domine, une des premières mesures serait d'exproprier leurs propriétaires. Cela permettrait de mettre la terre à la disposition des millions de paysans qui aujourd'hui en sont privés. La révolution russe avait en 1917 nationalisé toutes les propriétés qui avaient été redistribuées aux paysans sous le contrôle de leurs soviets. Ce n'était pas une mesure communiste, pas plus qu'elle ne le serait aujourd'hui, mais elle donnerait à des millions de paysans les moyens de se nourrir. Il faut également faire en sorte qu'une des priorités de l'industrie des pays riches soit de fournir à prix coûtant aux paysans des pays pauvres ce minimum qui leur permettrait de sortir des conditions archaïques de leur production. C'est-à-dire leur fournir des engrais, des pompes à eau, des motoculteurs et leurs pièces détachées. Plutôt que de fermer des usines dans les pays industrialisés parce que la production ne rapporte pas le taux de profit exigé par les capitalistes, il faudrait les faire fonctionner pour fournir les instruments et les produits indispensables à l'agriculture des pays pauvres. L'organisation de l'industrie et celle de l'agriculture sont étroitement liées. Rien que ces mesures simples permettraient à brève échéance d'écarter toute crise alimentaire. J'insiste sur le fait que même avec la quantité de terres arables disponibles et cultivées avec les moyens d'aujourd'hui, toutes les estimations considèrent que la terre peut nourrir 9 milliards de personnes, alors que la population actuelle est de 6,5 milliards. Débarrassés des chaînes du capitalisme, de la recherche de rentabilité à court terme, les sciences et les techniques progresseront à un rythme inimaginable aujourd'hui. En tant que communistes, nous avons confiance en la possibilité de l'homme d'accroître en permanence son emprise sur la nature, d'inventer des méthodes de culture nouvelles et de révolutionner par là même la production agricole. Nous n'avons pas la prétention de deviner comment sera organisée la production de la nourriture par une humanité débarrassée de l'exploitation, des lois du marché et de la rivalité pour le profit. Disons seulement qu'il ne s'agira pas nécessairement de faire rattraper par chaque pays pauvre, le retard accumulé par des siècles de pillage colonialiste et puis impérialiste. Il s'agira de faire en sorte que les richesses et les biens matériels, issus en partie de ce pillage et accumulés dans les pays impérialistes, puissent être mis au service de l'ensemble de l'humanité. Alors rendre les terres plus productives réduira bien sûr le nombre de paysans. Mais dans une organisation économique rationnelle, il y aura un autre choix que de crever de faim dans son village où la fuite éperdue est si souvent mortelle vers les pays riches. Et puis, l'avenir du paysan africain, par exemple, n'est pas de cultiver la terre avec la daba, la houe africaine, même en disposant de pompes à eau ou d'engrais. Les paysans abandonneront la production agricole d'autant plus volontiers qu'ils pourront trouver leur place dans d'autres activités et quitter le repliement et la coupure que la position d'agriculteurs pauvres d'aujourd'hui implique. La vie de ceux qui, disposant de moyens modernes, resteront dans l'agriculture se rapprochera de celle des citadins, comme c'est le cas de la majorité des agriculteurs des pays développés. Ce sont les lois de l'économie capitaliste qui font que ceux qui aujourd'hui quittent les campagnes dans les pays pauvres ne trouvent dans les villes de leur pays que le chômage et la misère des bidonvilles. Dans une économie rationnellement organisée, on répartira le travail entre tous. Les améliorations de productivité ne serviront pas à accumuler toujours plus de profits, revenant en boomerang sous forme de catastrophes financières. Elles serviront à réduire le temps de travail pour tous. L'humanité continuera à être confrontée à des choix, mais pourra les faire consciemment et démocratiquement. La question se posera, par exemple, de savoir dans quelle mesure on développe l'agriculture locale et régionale avec sa production spécifique, et dans quelle mesure, pour certains produits, on concentrera la production avec les moyens les plus modernes pour produire à grande échelle. En d'autres termes, même si la population continue à augmenter, l'avenir n'est pas forcément de défricher des zones encore non cultivées, de réduire, par exemple, la forêt tropicale, comme cela se pratique aujourd'hui, de manière sauvage et incontrôlée, de l'Amazonie à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant par l'Afrique. On pourra même sans doute reboiser des zones dont le capitalisme sauvage a détruit les forêts et rendre à la nature des régions entières pour préserver la biodiversité et offrir aux hommes la possibilité et le plaisir d'un contact avec la nature préservée. C'est seulement alors que l'écologie pourrait cesser d'être une préoccupation impuissante pour petits bourgeois qui n'ont pas de problème de survie quotidienne, pour devenir un élément des choix conscients que la collectivité aura à faire. Et puis, nous ne savons pas non plus de quelle façon se réaliseront les prévisions des premiers communistes, Marx et Engels en tête, concernant la disparition de la différence entre les villes et les campagnes, celle de la division du travail qui demeurera sans doute, mais qui n'emprisonnera plus chaque être humain dans un seul type d'activité tout au long de sa vie. Ce que nous pouvons assurer, en tout cas, sans jouer au devin, c'est que dans une société débarrassée de la dictature du capital, sauf catastrophe cosmique, plus personne ne souffrira de la faim. La nourriture sera comme l'air qu'on respire, ce qu'elle devrait être, un droit naturel pour tout être, du simple fait de son appartenance à la collectivité humaine.
Au débat. Il y a des camarades dans la salle avec un micro-baladeur. Si des organisations veulent prendre la parole, nous leur demandons de se limiter à une intervention par organisation. Et les camarades qui souhaitent intervenir sont invités à lever la main pour que nous puissions organiser le débat.
Financières actuelles qui en tirent les conséquences programmatiques léninistes. Moi, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le dernier supplément du journal bolchevique qui est en vente à la sortie. Si on voulait faire une polémique programmatiquement avec la direction des ouvrières, sur le sujet de ce soir, il y a tant de citations qu'on pourrait faire de Trotsky qui vont absolument à l'encontre des propositions d'Oélo, notamment les citations qui viennent d'être faites dans Lutte ouvrière de cette semaine, où c'est une citation sélective, où le message principal de Trotsky, à savoir la nécessité absolue du pouvoir, de la prise du pouvoir politique par le prolétariat, n'est pas dans la citation. Mais est-ce que la direction du Touvrier est vraiment intéressée par la qualification programmatique? On pourrait en douter. Elle vient d'exclure sa minorité social-démocrate qui était effectivement qui était impatiente de se jeter dans les bras du nouveau du NPA anticommuniste de Besançon pour se démarquer à droite. Mais est-ce que cela va le remettre sur la ligne programmatique celle? Qu'est-ce qu'il va faire dans son orientation, dans son front populisme qui va à l'encontre des belles paroles qu'on a entendues sur la société communiste future? Est-ce qu'elle va remettre en cause ceux qui l'ont mené à appeler la classe ouvrière à voter pour Ségolène Royal dans l'élection présidentielle de 2007? Est-ce qu'elle va remettre en cause ceux qui l'ont amené à mener ses listes au délire municipal avec des formations non prolétariennes, notamment à Belfort et ailleurs? Je rappelle que...
Donc tu termines et tu donnes ta question.
Je termine. Trotsky a insisté que le Front populaire, ce n'est pas une simple tactique, mais c'est le plus grand des crimes. Parce qu'avec le Front populaire, on contribue à faire la confusion dans la classe ouvrière. On contribue à ce qu'elle croit que l'État capitaliste peut être géré dans l'état de la classe ouvrière, alors que ce n'est pas possible. Alors, dans ce contexte, tout ce qu'on a entendu sur le vide du capitalisme, c'est du nouveau. La classe ouvrière a besoin d'un parti déterminé à la place du capitalisme, dont le critère numéro un est l'indépendance politique pour la classe ouvrière. Et ce parti-là, ce n'est pas du tout vrai.
Alors, y a-t-il d'autres questions dans la salle, des personnes qui veulent intervenir? Alors, il y en a une là-bas. Peut-être qu'on peut attendre pour voir. Et puis, donc, une là-bas, une autre. Là, une autre au fond, ça fait trois. J'en vois trois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il faudra veiller à ce que chacun limite son intervention au maximum hein, à 3 minutes. Donc, on donne la parole... là-bas. Et notre camarade répondra après.
Bonsoir. Donc moi, je connais l'organisation depuis à peu près depuis le mois de juin, en fait, de Solidarité et Progrès. Donc, il faut savoir qu'il y a un homme qui s'appelle Lyndon LaRouche qui avait prévu que la crise financière arriverait. Ça fait depuis 30 ans qu'il avait prévu que ce mécanisme de spéculation aboutirait à la crise que vous vivez actuellement. Et si vous voulez, il y a eu la première crise des subprimes là, qui, justement, que tous les politiques tentent de renflouer justement avec tout cet argent. Mais il y a une deuxième bulle bien plus importante qui va suivre. Et là, il n'y aura aucun renflouement possible. Donc il y a Jacques Attali qui est passé au journal télévisé et qui a déjà parlé d'un gouvernement mondial. Donc voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. C'est qu'il peut très bien se mettre en place une structure qui vise justement à collectiviser tout et à créer une banque unique en contrepartie privation des libertés de chaque citoyen dans le monde. Donc sur la sphère où ils pourront avoir le pouvoir. Alors voilà, je vois qu'il y a Lutte Ouvrière, le nouveau parti anticapitaliste, il y a le Parti communiste, il y a aussi le Front National. Personnellement, j'appelle tous les citoyens qui ont envie justement de prendre en main leur destinée, de se tendre la main et d'organiser, je ne sais pas, une manifestation générale, une grève générale, pour contrer toutes ces mesures.
Merci. Donc on passe à une autre intervention. Autre question dans la salle ? Là-bas ?
Simplement, est-ce qu'il n'y a pas une époque quand il y avait des gouvernements socialistes où on aurait pu contrer cet état de fait, cette domination de trust sur les pays pauvres.
Il y avait une autre question encore ? Là ?
Oui. Pour revenir sur les solutions que vous proposez, l'expropriation des grands propriétaires, l'exemple qui me vient en tête, moi, c'est celui du Zimbabwe, dans lequel ça a tout de suite été une catastrophe, puisque maintenant on sait qu'il y a des inflations de l'ordre de 10% sur un an ou un peu plus. Moi, je voudrais savoir si on ne peut pas essayer de tirer quelques leçons d'exemples réussis, comme l'Inde, l'Indonésie ou la Chine, qui, dans les 10 dernières années, elles ont vraiment réussi à faire diminuer d'une manière très importante la population de malnutrie, et cela en se basant sur la mondialisation, puisqu'on profitera en particulier des hybrides, et certes en passant au passage en massacrant un petit peu leur environnement. Et j'aimerais bien savoir dans quelle mesure on pourrait essayer de trouver des solutions qui s'appliqueraient à la population qui me paraît la plus en danger pour l'instant, savoir Haïti, où ils en sont réduits pour l'instant à manger des galettes de boue.
Merci, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc je donne la parole à notre camarade pour les réponses.
Bon, ben, par rapport au premier orateur, je lui laisse ses appréciations, hein, que je ne partage pas du tout, à part la nécessité de la prise du pouvoir par prolétariat, que j'espère effectivement il y aura un jour. Voilà. Sinon, je ne suis pas sûre d'avoir très très bien compris l'intervention du deuxième camarade, mais je crois que de toute façon, pour préparer une manifestation générale ou une grève générale, il ne suffit pas de le déclarer. Quant à, j'ai cru deviner une certaine crainte devant la possibilité d'une banque unique et avec des contreparties de privatisation de liberté, si j'ai bien saisi. Bon, moi je crois que ça c'est un petit peu des histoires qu'on peut se raconter, parce que même quand ils nationalisent, là ils ont des façons de parler qui sont nationalisation provisoire. Ils disent que de toute façon ils vont reprivatiser. Donc dès que ça marchera un petit peu mieux, dès que le système bancaire sera remis en place, de toute façon ils le rendront aux actionnaires. Donc je pense pas que voilà. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que par rapport à toutes les populations qui risquent d'être affamées et toutes les populations qui risquent de tomber dans la famine là dans les mois qui viennent, parce que si la FAO etc. lance une alerte, c'est quand même pas pour rien. Hein, ils sont au moins de ce point de vue-là, ils n'arrivent pas à réagir, mais au moins du point de vue des statistiques, elles sont globalement assez valables. Hein. Donc par rapport à ça, oui, on a de quoi s'inquiéter, parce que effectivement, tout ce système de marché fait que, quelle que soit d'ailleurs l'évolution des prix qu'on va voir dans les mois à venir, de toute façon, on aura encore plus de gens qui seront en difficulté pour arriver à se nourrir. Effectivement, il aurait fallu contrer la mainmise par les trusts de l'économie. Oui, ça serait une nécessité indispensable, et je crois qu'effectivement, ça fait partie de notre combat. Par rapport au dernier intervenant, effectivement, il y a l'expérience du Zimbabwe, mais moi, je me référais en particulier à l'exemple de la Russie, de l'Union soviétique, hein, quand c'est passé, le pouvoir a été pris par les bolcheviks. Et là, il y a quand même eu une transformation réelle, indispensable. On est quand même vraiment passé d'un régime de propriété féodale, d'arriération extrêmement profond, à au moins une situation où les paysans avaient accès à la terre. Et ça, c'est pas rien. Alors bien sûr, après, il y a eu le stalinisme, il y a eu toute une évolution qui fait que ça n'a pas donné ce qu'on aurait pu espérer. Mais l'exemple que le monsieur reprend, sur le camarade reprend sur l'Indonésie et l'Inde, moi je la partage pas, parce que ok, il y a eu des pays où ça a un peu évolué, il y a eu un petit peu moins de gens affamés, mais c'est quand même une honte. Enfin, je me suis servi dans le topo du Brésil, mais j'aurais pu dire quasiment la même chose sur l'Inde. Le nombre d'affamés est plus important. La victoire, disons, au niveau de la productivité, etc., je ne sais pas si elle est plus importante ou moins importante que le Brésil, je crois qu'elle est quand même un peu moins. Mais de toute façon, ce qui est extrêmement choquant là-dedans, c'est qu'on a des pays qui réussissent à produire, mais sans que ça change le niveau de misère de toute une partie de la population. Alors, bien sûr, c'est vrai aussi des États-Unis, c'est vrai aussi en France, c'est vrai. En Inde, c'est encore pire, et ça, c'est inacceptable. Et on ne peut pas vivre dans une société qui, d'un côté, va exporter des céréales, et de l'autre côté, va laisser crever sa population. Ça, je pense que... Je voulais juste dire une dernière chose, trouver des solutions, c'est... Bon, je sais... Enfin, comment dire... Il y a, pour nous, tout ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que finalement, il n'y a pas réellement de solution dans la situation. Ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'à chaque fois que les populations se bagarrent, eh ben, les gouvernements, ils sont quand même obligés de reculer. Quand il y a eu les émeutes de la faim, il y a quand même eu des gouvernements qui ont été obligés de baisser les prix de denrées, du pain, etc. Parce qu'il fallait au moins, enfin, c'est la crainte en fait de la population qui les oblige un petit peu à reculer. D'ailleurs, à Haïti, quand il y a eu les émeutes, il y a eu aussi des décisions de ce genre qui ont été prises. Il y a un ministre qui a dû sauter, etc. Alors, je crois que s'il y a une voie qui nous est montrée quand même. Bon, dans cette situation, enfin, je suppose que le camarade a vu les images qu'il y a eu hier à FR3, qui étaient effectivement extrêmement choquantes, parce qu'on voyait ces femmes en train de fabriquer leurs galettes de boue et les enfants en train de les manger. Ben, le fait qu'au moins, au moment où ils se sont révoltés, ça a obligé les gouvernements à faire quelque chose. Et finalement, c'est le seul moment où ils ont fait quelque chose. Parce que là, on le voit, ils sont prêts à débourser 30 milliards sans aucun problème, des centaines de milliards ici et là, et ils ne peuvent pas, enfin, dès que la menace de la population s'éloigne un petit peu, finalement, il y a même, enfin, ils ont rien à, ils sont pas prêts à lâcher le moindre centime pour ça. Et même, je dirais, dans nos pays, parce que finalement, vu les taux de chômage, s'il n'y avait pas le système du RMI, etc., ben, qu'est-ce qui explique qu'ils le donnent d'ailleurs, hein ? C'est bien quand même une certaine crainte que ça dégénère. Que... Bon, alors je crois quand même que c'est de ce côté-là qu'il y a des solutions et qu'au travers de l'organisation de la population, ben, effectivement, moi j'espère, comme ma camarade l'a dit dans l'introduction, ben, qu'on va retrouver les chemins des luttes et puis qu'on va réussir à, comment dire, à faire reculer cette bourgeoisie jusqu'à même la renverser.
À l'angle, tout ça dehors.
Merci Kevran, donc c'est fini pour ce soir et rendez-vous donc pour le prochain cercle entre skis, une date pour l'instant, une date ultérieure.